En l'espace de 3 siècles et quart, de l'élection de Hugues Capet à la mort de Philippe le Bel, 11 rois seulement avaient gouverné la France, tous laissant un fils pour leur succéder au trône. Prodigieuse dynastie que celle des Capétiens. Le destin jusque-là semblait l'avoir marqué pour la durée. Sur les 11 règnes, on n'en comptait que 2 qui eussent couvert moins de 15 ans. Cette extraordinaire continuité du pouvoir avait grandement contribué, et quelle qu'ait été la médiocrité de certains rois, à la formation de l'unité nationale. Au lien féodal, lien purement personnel de vassal à suzerain, de plus faible à plus fort, se substituait progressivement cet autre lien, cet autre contrat qui unit les membres d'une vaste communauté humaine longtemps soumise aux mêmes vicissitudes et sous une même loi. Si l'idée de nation n'était pas encore évidente, son principe, sa représentation existait déjà dans la personne royale, source permanente d'autorité. Qui pensait le roi, pensait aussi la France. Reprenant les objectifs et les méthodes de Louis VI et de Philippe Auguste, ses plus remarquables devanciers, Philippe le Bel, pendant près de 30 ans, s'était appliqué à charpenter, à maçonner cette unité naissante, mais le ciment était encore frais. Or, à peine le roi de fer disparu, son fils Louis X le suivait au tombeau. Le peuple ne pouvait manquer, dans ces 2 décès survenus coup sur coup, de voir le signe de la fatalité. Le 12e roi avait régné 18 mois, 6 jours et 10 heures, juste le temps suffisant à ce piètre monarque pour compromettre en grande partie l'œuvre de son père. Durant son passage au trône, Louis X s'était surtout signalé en faisant assassiner sa première femme, Marguerite de Bourgogne, en envoyant à la pendaison le principal ministre de Philippe le Bel, Enguerrand de Marigny, et en réussissant à enliser une armée entière dans la boue des Flandres. Tandis qu'une famine décimait le peuple, 2 provinces s'étaient révoltées sous l'inspiration des barons. La haute noblesse reprenait le pas sur le pouvoir royal. La réaction était toute puissante et le trésor à sec. Louis X avait reçu la couronne alors que le monde était sans pape. Il partait avant qu'on soit parvenu à s'accorder sur le choix d'un pontife. Et maintenant, la France était sans roi. Car de son premier mariage, Louis ne laissait qu'une fille de 5 ans, Jeanne de Navarre, fortement soupçonnée de bâtardise. Quant aux fruits de son second mariage, il ne constituait pour l'heure qu'une fragile espérance. La reine Clémence était enceinte, mais n'accoucherait que dans 5 mois. Enfin, l'on disait ouvertement que le hutin avait été empoisonné. Que serait, dans de telles conditions, le 13e règne? Rien n'était prévu pour l'organisation de la régence. À Paris, le comte de Valois cherchait à se faire reconnaître régent. À Dijon, le duc de Bourgogne, frère de la reine étranglée et chef d'une puissante ligue baronniale, n'allait pas manquer de se poser en défenseur des droits de sa nièce, Jeanne de Navarre. À Lyon, le comte de Poitiers, premier frère du Hutin, se trouvait aux prises avec les intrigues des cardinaux et s'efforçait en vain d'obtenir une décision du conclave. Les Flamands n'attendaient que l'occasion de reprendre les armes et les seigneurs d'Artois continuaient leur guerre civile. En fallait-il autant pour rappeler à la mémoire populaire l'anathème lancé par le grand maître des Templiers 2 ans auparavant, du haut de son bûcher? Dans une époque prompte aux croyances, le peuple de France pouvait aisément se demander en cette première semaine de juin 1316 si la race capétienne n'était pas désormais maudite.
Première partie, Philippe Porte-Close.